dans quelle mesure ces personnages de l'Ancien Testament, dans quelle mesure, qui sont pourtant si éloignés de nous, tant sociétalement, tant culturellement, c'est vrai, dans quelle mesure entrent-ils aujourd'hui pour nous dans le plan de Dieu? Dans quelle mesure nous disent-ils encore aujourd'hui quelque chose qui nous concerne? Alors, je vais laisser la place à Sylvie pour nous lire ce long texte.
Donc, on est dans 1 Samuel, chapitre 25. À cette époque, Samuel mourut. Tous les Israélites se rassemblèrent pour prendre part aux cérémonies de deuil. On l'enterra chez lui à Rama. Ensuite, David se rendit au désert de Paran. Dans la localité de Maon vivait un homme, un important propriétaire, qui possédait 3000 moutons et 1000 chèvres. Ses domaines se trouvaient à Carmel et il y était alors pour la tonte de ses troupeaux. Il s'appelait Nabal et sa femme Abigaïl. Celle-ci était intelligente et belle, tandis que son mari était dur et méchant. Ils étaient du clan de Caleb. Dans le désert, David apprit que Nabal procédait à la tonte de ses bêtes. Il décida de lui envoyer 10 de ses compagnons, auxquels il dit « Allez à Carmel chez Nabal et demandez-lui de ma part si tout va bien. Vous lui direz que l'année te soit favorable, que tout aille bien pour toi, pour ta famille et pour tout ce qui t'appartient. » David a appris que les tondeurs sont chez toi. Or, pendant tout le temps où tes bergers étaient à Carmel avec nous, nous ne leur avons fait aucun mal et ils n'ont rien perdu. Tu peux les interroger, ils te le confirmeront. David te prie donc d'être bienveillant envers nous en ce jour de fête où nous venons à toi. Donne-nous pour nous et pour ton serviteur David ce dont tu peux disposer. Les compagnons de David allèrent porter ce message à Nabal de la part de David, puis ils attendirent. Mais Nabal leur répondit, « David, le fils de Jessé, qui est-ce ? Aujourd'hui, il y a bien trop d'esclaves qui s'évadent de chez leur maître. Et moi, je devrais prendre de mon pain, de mon eau, de la viande que j'ai préparée pour mes tondeurs et les donner à des gens dont je ne sais même pas d'où ils viennent. » Les compagnons de David s'en retournèrent et vinrent lui rapporter la réponse de Nabal. David leur ordonna que chacun prenne son épée. Chacun passa son épée dans sa ceinture, David prit aussi la sienne. 400 hommes environ partirent avec lui, tandis que les 200 autres restaient près des bagages. Un des serviteurs de Nabal vint avertir Abigaïl, la femme de son maître, en ces termes. « Depuis le désert, David a envoyé des messagers saluer notre maître, mais celui-ci les a mal reçus. Pourtant, ces gens ont été très bons pour nous. Ils ne nous auront fait aucun mal et nous n'avons rien perdu. Pendant tout le temps, nous les avons côtoyés dans les campagnes. Jour et nuit, ils ont été comme une muraille protectrice autour de nous, aussi longtemps que nous avons gardé les troupeaux dans la région où ils étaient. Maintenant donc, réfléchis bien à ce que tu dois faire, car sans aucun doute le malheur va s'abattre sur notre maître et sur la famille. Il a lui-même si mauvais caractère qu'on ne peut rien lui dire. » Abigaïl se hâta de prendre 200 pains, 2 outres de vin, 5 moutons tout apprêtés, 5 mesures de grains grillés, 100 grappes de raisins secs et 200 gâteaux de figues. Elle chargea le tout sur des ânes, puis ordonna à ses serviteurs « Passez en avant, je vous suis. » Abigaïl n'avait rien dit à Nabal, son mari. Installée sur son âne, elle descendait, cachée par la colline. Pendant ce temps, David et ses compagnons avançaient dans sa direction. Soudain, elle se trouva en face d'eux. David venait justement de se dire « Voilà ce que j'ai gagné, à protéger dans le désert tous les biens de cet individu, afin qu'il ne subisse aucune perte. Il me rend le mal pour le bien. » alors que Dieu m'inflige la plus terrible des punitions, si jusqu'à demain matin, je laisse un seul homme en vie dans la famille de Nabal ?» Dès qu'Abigaël aperçut David, elle descendit en hâte de son âne. Elle s'inclina devant David, se jeta le visage contre terre, à ses pieds, et lui dit « À moi la faute, Excellence, à moi seule. Permets-moi toutefois de te parler. Écoute ce que j'ai à te dire. Ne t'occupe pas de Nabal. C'est un vaurien qui mérite bien son nom. Il s'appelle Nabal l'abruti. Il est vraiment une brute. Quant à moi, je n'avais pas vu que tu nous avais envoyé quelques-uns de tes compagnons. Mais maintenant, par le Seigneur vivant et par ta propre vie, le Seigneur lui-même te retient d'en venir au meurtre et de te faire justice toi-même. Que tes ennemis et ceux qui te veulent du mal subissent le même sort que Nabal. Accepte les cadeaux que je t'apporte, qu'ils soient répartis entre les hommes, les jeunes hommes qui t'accompagnent. Veille aussi à me pardonner ma faute. En effet, je suis sûre que le Seigneur accordera pour toujours le règne à ta famille, car tu participes aux guerres du Seigneur, et on ne pourrait trouver aucun mal en toi tout au long de ton existence. Un homme s'est mis en tête de te poursuivre, il veut ta mort. Mais le Seigneur, ton Dieu, protégera toujours ta vie en le gardant auprès de lui, tandis qu'il rejettera au loin la vie de tes ennemis comme avec une fronde. Lorsque le Seigneur accomplira tous les bienfaits qu'il t'a promis et fera de toi le chef d'Israël, il ne faudrait pas que tu aies la conscience tourmentée par le remords d'avoir tué inutilement quelqu'un et de t'être fait justice toi-même. Et quand le Seigneur t'aura accordé le bonheur, souviens-toi de moi. » David répondit à Abigaïl : « Je remercie le Seigneur, le Dieu d'Israël, qui t'a envoyé en ce moment à ma rencontre. Je te remercie aussi, toi qui, avec bon sens, m'as empêché d'en venir au meurtre et de me faire justice moi-même. Vraiment, par le Seigneur vivant, le Dieu d'Israël, qui m'a retenu de te faire du mal, je te jure que si tu n'étais pas venu aussi rapidement à ma rencontre, demain, à l'aube, il ne serait plus resté un seul homme vivant dans la famille de Nabal. » David accepta ce qu'Abigaël lui avait apporté, puis il reprit « Retourne en paix chez toi, tu vois, j'ai entendu ta supplication et je l'accueille favorablement. » Lorsqu'Abigaël arriva à la maison, elle y trouva Nabal en train de festoyer. C'était un vrai festin de roi. Nabal était si joyeux et tellement ivre qu'elle ne lui dit pas un mot avant l'aube. Elle attendit que son ivresse soit dissipée au matin pour lui raconter ce qui s'était passé. Nabal en reçut un tel choc qu'il resta paralysé. Une dizaine de jours plus tard, le Seigneur le frappa d'une nouvelle attaque et il mourut. Quand David apprit la mort de Nabal, il s'écria « Je remercie le Seigneur qui a pris ma défense au moment où j'étais insulté par l'attitude de Nabal. Je le remercie de m'avoir retenu de faire le mal et d'avoir fait retomber sur la tête de Nabal sa propre méchanceté. » Puis David envoya des messagers, proposa à Abigaïl de devenir sa femme. Les messagers arrivèrent chez elle, à Carmel, et lui dirent « David nous envoie te chercher pour que tu deviennes sa femme. » Abigaïl s'inclina devant eux, le visage contre terre, et répondit « Je deviendrai l'esclave de son Excellence. Je suis prête à laver les pieds de ses serviteurs. » Elle se releva en hâte, monta sur son âne et, accompagnée de 5 servantes, partit à la suite des messagers de David et elle devint sa femme.
Merci Sylvie pour cette belle et longue lecture. Désolée, on pourrait dire maintenant tout est fini bien tout est bien qui finit bien. Et puis voilà, c'est fini. Je peux donc vous laisser, je peux partir. Ça va, vous avez fini. On va essayer quand même ensemble de voir ce qui se passe et nous allons revenir sur ce récit quand même, somme toute, assez passionnant. Je vais prendre peut-être la télécommande. Merci. Il y a plusieurs forces en présence. Vous les voyez un petit peu sur la diapo qui apparaît. Et les personnages, dont le texte est long, et les personnages sont quand même très nombreux. Il y en a des connus, des moins connus. Il y a David, David connaît David, qui traverse beaucoup le livre de Samuel, mais aussi Samuel, Samuel dont le livre porte le nom disparu, Saül, le roi absent, qui n'est pas là mais qui est omniprésent dans la tête de David, à l'esprit de David, Nabal, et Abigaël, bien entendu, l'homme et la femme, le mari, la femme. Alors, Abigaël et non pas Abby, hein, non pas Abby comme dans la série NCIS. Bon, mais Abigaël l'insoumise, comme l'appelle Lydia Lehmann dans un article. D'ailleurs, j'ai réalisé en vous mettant cette photo que l'Abby de NCIS était aussi très insoumise, mais qu'elle n'est plus dans les derniers épisodes d'NCIS. Alors là, vous voyez que je suis déjà dépassée dans les séries. Nous pourrions résumer notre histoire ainsi. David demande avec insistance à Nabal, qui est un riche propriétaire, de nourrir sa bande de parias, parce que c'est ça qu'il a, de voleurs, qui l'accompagnent dans un exil forcé. Ce serait après tout un retour bien mérité, puisque David et sa bande avaient protégé les troupeaux de ce Nabal dans le désert. Mais ça sent, je dirais, un petit peu le moisi. Nabal refuse, David s'enflamme, somme toute, encore un beau pitch, peut-être pour une nouvelle série de Netflix. Tout est là, si vous avez d'autres idées. Samuel est mort. Samuel est mort. Et je vous ai dit qu'il était omniprésent. Le texte démarre ainsi, et c'est comme un peu comme un incipit. Vous savez, ce qu'on met au début d'une histoire, là, comme un titre. Et c'est une transition qui ne semble pas avoir une grande importance. Samuel est mort, mais qui situe bien le malaise, tel qu'il apparaît. Cela n'occupe qu'un seul verset dans notre texte, mais en même temps, cela campe bien la situation. Le grand prophète Samuel, celui que l'Éternel avait appelé, celui qui était consacré enfant au service de l'Éternel, premier chapitre du livre de Samuel, retournez-y, les histoires de l'école biblique, quand Samuel répond « Seigneur, me voici, ton serviteur écoute, tout petit. » C'est ce Samuel-là, c'est celui-là qui est mort, celui qu'on a vu tout enfant et qui maintenant est mort. Mais ce n'est pas que celui-là. Samuel a traversé toute l'histoire, toute une partie de l'histoire de Saül et de David. Samuel, c'est celui qui a fait la transition, qui a obéi au Seigneur en faisant la transition entre les juges, ce moment où c'était un peu l'anarchie totale en Israël, la transition vers le royaume en mettant comme roi, en instituant comme roi, Saül. C'est aussi celui qui va oindre David. Alors, dans les deux situations, ce qui est intéressant, c'est que ces deux personnes, Saül et David, qui sont maintenant en opposition, ont comme modèle Samuel. Et qu'ils l'écoutent ou qu'ils ne l'écoutent pas dans toute cette histoire, l'influence sur eux de Samuel est immense. Et justement maintenant, où ils ne s'entendent plus, Samuel n'est plus là. Il n'est plus là pour trancher. La route de David est toujours semée d'embûches. C'est Saül qui le poursuit. Et je crois que, aussi bien Saül, on le sait, mais que David se sent sans doute plus seul que jamais. C'est référence, les références habituelles de ces personnages, c'est-à-dire Samuel, qui était la voix de Dieu, la parole de Dieu, n'est plus là, a disparu. Ça m'a fait réfléchir que quand une crise surgit dans nos vies, elle est souvent inscrite dans un contexte qui nous rend plus vulnérables, plus ou moins perméables aux attaques. Parfois, c'est la fatigue, le deuil, le burn-out, la maladie. Et ce sont dans ces petits interstices de nos vies que se glisseront nos problèmes, nos écarts, nos tentations, mais aussi nos guérisons. Je fais référence alors toujours à Lydia Lehmann qui m'a inspirée pour cette prédication, un article qui est paru dans une revue de théologie. Et elle parle dans ce texte d'un texte de... Dans son article, elle parle d'un récit sandwich. Alors, vous voyez, j'ai mis un beau sandwich. Hein. C'est un peu comme le jambon beurre entre deux tranches de pain. Ou bien, elle dit aussi un autre mot plus savant, le récit de milieu. David, en fuite, vient d'épargner Saül alors qu'il aurait pu le tuer. Saül qu'il persécute et qui le poursuivait dans le désert. Il aurait pu le tuer, mais il a renoncé. Ça, c'est la première tranche de pain. Et David l'épargnera une fois de plus, après, dans le chapitre suivant, il épargnera une fois de plus Saül. Ça, c'est la deuxième tranche de pain. Et au milieu, il y a notre récit. Notre récit, c'est le jambon beurre avec la feuille de salade. Il peut rester consommable s'il reste un peu au frais, mais on sait que le jambon beurre au milieu peut se gâter très très rapidement, surtout avec la feuille de salade. Ainsi, David poursuivi désire sans doute la vengeance. Nombre de psaumes sont là pour en témoigner. Il ressent de l'injustice, de la souffrance, du dépit. Et dans sa vulnérabilité, ce sont des mots ou des actes d'autres personnes sur sa route qui l'arrêtent ou qui l'enflamment, qui vont le faire basculer d'un côté ou de l'autre de la balance. Ainsi, David, avec ses deux visages, le mouton, le gentil, le poète dont nous récitons les psaumes, et de l'autre côté, le brut, le violent, le guerrier qui est prêt à tuer. On a dans le texte, vous l'avez entendu tout à l'heure, lu par Sylvie, David prit son épée. Il est là, il est prêt à se battre. Il est violent, ce n'est plus le petit David face à Goliath qui avait battu le géant philistin. Son passé de guerrier prend le dessus et à ce moment-là, Nabal est sur sa route. Tout aurait peut-être bien pu se passer sans encombre, mais Nabal est sur sa route. Ce jour-là, sa pierre d'achoppement, c'est Nabal. Au verset 3, le personnage de Nabal est campé. Alors, il est le descendant de Caleb. Rappelez, Caleb faisait partie des espions qui étaient partis dans la terre promise pour voir s'ils pouvaient entrer ou non. Première tentative d'entrer dans la terre promise. Et avec Josué, il faisait partie avec Josué des seuls qui avaient dit « oui, c'est possible ». Les autres n'ont pas cru. Il se trouve que les autres ont été punis, ils n'ont pas pu rentrer. Et Caleb et Josué sont entrés 40 ans plus tard dans la terre promise. Ascendance glorieuse, belle. Ascendance de Caleb. Mais son ascendance remarquable ne suffit absolument pas à faire de lui, à forger ce personnage, à faire de lui quelqu'un qui est fidèle à Dieu. Il est dur, on le dit dans le texte, il est méchant, à plus forte que ses ancêtres glorieux, il y a cette méchanceté qu'il habite, cette suffisance. Nabal est présenté comme l'incarnation du mal et sa mort, à la fin du récit, l'atteste. Le psaume 10 nous dit au verset 4, « Dans son orgueil, l'homme mauvais ne se pose pas de questions, Dieu n'a aucun pouvoir, voilà ce qu'il pense. » Ben ça, moi, j'ai trouvé que c'était Nabal. Il ne se pose pas de questions, il boit, il ne fait rien. Malgré le poids des héritages, malgré de génération en génération, dans l'Ancien Testament déjà, l'Écriture proclame ici que nous ne nous sommes pas rachetés, nous ne sommes pas sauvés par une belle ascendance, par une belle famille, par de belles choses, mais par un choix personnel. De son côté, on va dire que David aborde Nabal dans une logique de remboursement de dette. C'est du donnant-donnant. La logique du remboursement de dette est une pratique qui semble finalement bonne. vous incite à rembourser vos dettes. C'est la pratique de la réciprocité qui peut assurer de bonnes relations sociales quand ça fonctionne. C'est-à-dire, le problème, c'est quand elle ne fonctionne pas, quand elle ne fonctionne pas dans la bienveillance. Et on glisse ainsi de la gratitude, qui est un sentiment louable, je te remercie, à la reconnaissance comme un dû. Dans d'autres milieux un peu plus crash, on parle dans les gangs ou dans les mafias, on en a entendu parler ces temps-ci là encore, c'est une exigence de rendre son dû. Tu me dois une faveur, on peut entendre dans les séries, hein. You owe me a favor. Et puis à ce moment-là, tout bascule. C'est fini, c'est l'enfer. Tout bascule dans l'enfer, on ne peut plus en sortir. La reconnaissance comme un dû est une attitude tellement humaine que nous la rencontrons aussi dans nos communautés qui prêchent pourtant l'amour inconditionnel de Dieu. Sylvie l'a rappelé ce matin dans ses textes. En fait, est-ce que nous ne sommes pas souvent à espérer un retour de quelque chose? Et je parle pour moi en premier. Je ne dirais pas forcément de l'argent, hein, mais de la reconnaissance, de l'amour que nous pensons peut-être avoir mérité. Un retour de l'autre, peut-être même parfois un retour de Dieu. Chaque fois, et je le dis vraiment du fond de mon cœur, chaque fois que nous sommes tentés de raisonner ainsi, et je sais que ça nous arrive, rappelons-nous que c'est exactement, exactement le contraire de la grâce, c'est exactement le contraire du don parfait et gratuit, complètement gratuit, qui est incarné par Jésus, par le Christ. Mais David tente d'utiliser cette stratégie. Les mots semblent doux, les mots de David semblent très doux, mais le message est clair quand même. Il envoie un groupe de serviteurs sans se présenter lui-même, et cet homme méchant et sans conscience qui est Nabal, cet homme imbu de lui-même, le méprise ouvertement, Sylvie l'a bien dit. Qui est ce fils de qui déjà? Ce fils de qui? Alors, je vous laisse transposer ce qu'on pourrait dire actuellement, fils de, comme une insulte, je ne le dirai pas. Mais vous voyez jusqu'où les choses vont. Qui est ce fils de? Il est n'importe quoi, c'est n'importe quoi. Il rajoute aussi ces paroles là où l'on pourrait, telles quelles, presque dans de nombreux discours contemporains, quand Nabal dit, hélas, si, et moi, ça c'est la réponse de Nabal, je devrais prendre mon eau, mon pain, ma viande, pour la donner à des gens dont je ne sais même pas d'où ils viennent. On l'a entendu cette phrase, hein? On l'entend tous les jours cette phrase. L'égoïsme, l'autosatisfaction sont aussi présents aujourd'hui, comme chez Nabal. Sans filtre, et parfois avec filtre, mais c'est encore pire quand il y a des filtres et que par derrière, il y a la même chose. De plus, nous avons les 10 serviteurs qui rapportent brutalement les paroles de Nabal à David. Ce n'est pas facile, hein, de transmettre un message sans le dénaturer. Pas facile du tout. Ça vous est peut-être, vous savez, le téléphone... qu'on se passe les jeux, là, qu'on commence une phrase et puis qu'on doit retrouver la même phrase au bout. Pas facile. À la fin, la phrase est dénaturée. Peut-être ces messagers se réjouissent-ils déjà de voir naître un nouveau conflit. Après tout, dans la grotte, le récit auparavant, quand David a décidé d'épargner Saül, ils avaient, eux, encouragé David à tuer Saül. En fait, la guerre, elle est pratiquement déclarée. Au verset 13, David dit « Que chacun prenne son épée ». On ne raisonne plus et ce sont les rancœurs, les émotions, la testostérone peut-être, qui guident les hommes et les événements à ce moment-là. Alors que Dieu m'inflige la plus terrible des punitions si jusqu'à demain je laisse un seul homme en vie dans la famille de Nabal, annonce David furieux. C'est parti. Et quand même Abigaël, quand elle rentre chez elle, elle nous dit qu'elle voit son homme est en train de festoyer comme un roi complètement ivre. Le carnage n'est pas loin. Vous voyez, les deux forces en présence. David va tout détruire. Mais entre ces deux clans, David, Nabal, nous avons Abigaël. Une femme sensé. Dans cet article auquel je fais référence, Lydia Lehmann parle surtout sur le caractère insoumis de cette femme courageuse. Et je commencerai, moi, par la caractériser d'abord de sensée, comme le texte le fait. Sensée à l'opposé de ces hommes insensés et fous. L'insensé, selon la Bible, c'est celui qui dit quoi d'ailleurs? Qu'est-ce qu'il dit, l'insensé, selon la Bible? Maison sur le sable, ouais, on en a parlé il n'y a pas longtemps. Qui n'a pas de Dieu? L'insensé, selon la Bible, c'est celui qui nie Dieu. C'est ça, l'insensé. Une question d'intelligence ou quoi? C'est l'insensé, c'est celui qui nie Dieu. Et Nabal est qualifié d'insensé. Le nom d'Abigaël, lui, signifie autre chose. Vous savez l'importance des noms dans la Bible. Ça veut dire le Père est joie, ou dans d'autres fois on dit ma joie est en Dieu. Comme si elle avait en elle-même le nom de Dieu et qui devait se réaliser. Et c'est peut-être ce qui va se passer ici. Certes, pour elle, c'est avant tout une question de survie. Abigaël veut sauver sa peau, éviter un cataclysme entre deux groupes violents, éviter d'être violée, ne nous cachons pas les yeux, comme la majorité des femmes dans les conflits, c'est ce par quoi elles passent, voire tuer, elle veut éviter le pire, on sait ce que c'est. Elle a donc, dès le début, une bonne appréciation des enjeux. Son intelligence est soulignée dès le début du texte. Une femme intelligente, et en plus, elle est belle. Mais cette intelligence est également reconnue par un serviteur qui l'avertit du danger et qui lui fait donc confiance, plus qu'au chef de la maison qui est en train de s'enivrer. Ces messagers, vous avez peut-être remarqué, jouent un rôle particulièrement important dans ce récit. Les messagers dont je viens de parler, envoyés par David, d'une part, qui vont être comme les porteurs de guerre. Le messager d'Abigaël, d'autre part, le messager facilitateur de paix. C'est en quelque sorte un peu le tournant du récit. Mais objectivement, comment peut-on éviter, à cette époque-là, quand on est une femme, un conflit majeur et dévastateur? Quel pouvoir a cette femme? Dieu l'a choisie, Dieu lui fait confiance. Elle est insoumise, certes, parce qu'elle outrepasse l'autorité de son mari. La femme de l'Ancien Testament ne prend généralement pas de décision de cette importance qui va à l'encontre de celle prise par son mari sans l'avertir. Et on ne va pas crier au scandale actuellement, ça s'est passé il y a des siècles, et c'était dans un contexte sociétal où l'homme avait toute autorité sur la femme. C'était institué comme ça. Mais par contre, je dis scandale aujourd'hui, quand cette autorité sur la femme existe et même institutionnalisée dans certains pays ou dans certains milieux. Scandale, j'ose le dire. La position sociale de la femme, Abigaël, est riche, elle est puissante, mais elle ne lui confère pas non plus une grande liberté face à son mari. Mais l'intelligence, la prudence d'Abigaël est certainement sa souffrance de femme qui est abusée, maltraitée. Tout ceci est reconnu par certains de ses serviteurs. C'est le témoignage lumineux d'Abigaël au sein de son foyer qui va lui ouvrir une porte de sortie. Le serviteur, le médiateur, le facilitateur de paix permet de rattraper la bêtise folle et dangereuse de son mari en lui passant le message. Sans prévenir son mari, donc en agissant de son propre chef, elle décide d'offrir largement à ses guerriers qui ont faim, victuailles et nourriture. Bon, déjà, ça c'est terre à terre, mais elle a bien ciblé le problème. Ce sont ses armes. À cause de l'affront et du refus de Nabal, elle va même jusqu'à apparaître en position de faiblesse. Et elle va venir en personne se présenter. Elle ne va pas se faire représenter comme David. Soudain, elle se trouve face à eux, une petite femme, face à une armée. Elle se fait petite, soumise. Elle s'agenouille. Elle offre une quantité très importante de nourriture, pas un petit truc pour les calmer. 200 pains, 2 outres de vin, 100 grappes de raisin, 200 gâteaux de figues. Elle nourrit l'armée entière. En nommant son mari, Nabal l'abruti, vous l'avez peut-être entendu dans le truc, elle nomme son mari Nabal l'abruti. Et je voulais juste vous faire remarquer que j'ai lu dans les notes que ce nom, qui est là pour traduire, qui est traduit par l'abruti, ça dépend hein, les traductions, est utilisé peu de fois dans l'Ancien Testament, et la fois où il est utilisé, c'est pour qualifier ceux qui veulent abuser et violer les filles de Lot à Sodome. Donc vous voyez ce que ça veut dire, Nabal l'abruti. Vous voyez pourquoi il est abruti aussi. C'est le même qualificatif. Elle affirme là vraiment son insoumission, ça c'est clair. Et toute cette insoumission est approuvée, vous l'avez vu dans tout le récit. C'est elle qui porte le message. Sa décision, son action sont rapides, nourrir des gens affamés, éviter une guerre. Mais voilà, le récit est là, mais est-ce que cela ne nous invite-t-il pas à regarder un petit peu plus loin pour voir dans la mesure où cela nous concerne. Elle se comporte en servante. Elle prend sur elle la faute de son mari, au verset 24. « À moi la faute, mon Seigneur, à moi seul, veuille me pardonner. » Elle demande à David de faire porter la responsabilité sur elle seule comme une culpabilité de substitution. De plus, elle arrive sur un âne, comme le Christ, qui entre à Jérusalem. Elle présente une offrande pour le sacrifice du péché. Elle prophétise au sujet de David en annonçant son royaume. N'oublions pas que David est à ce moment-là fugitif, il n'est pas encore roi. Et dans son argument, elle lui fait comprendre que son projet d'attaque violent n'est pas compatible avec sa position de futur roi. D'ailleurs, le Talmud la reconnaît comme l'une des 7 prophétesses de l'Ancien Testament, reconnue aussi dans le Talmud. Et elle annonce publiquement la vérité sur son mari. Elle dit la vérité, puisqu'elle dit « c'est vraiment une brute, je viens d'en parler », en français courant. Prendre la faute sur l'autre sur soi, avancer sur un âne, prophétiser, dire la vérité, être ouvrier de paix, intermédiaire, médiateur. Est-ce que cela ne vous rappelle pas quelqu'un ? On parle de figures qui nous annoncent, des figures imparfaites, mais qui nous annoncent déjà dans l'Ancien Testament tout le message, tout ce que le Christ va apporter. Et on peut dire qu'il y a eu plusieurs préfigurations du Christ, comme pour préparer sa venue. Moïse, par exemple, Josué, on a l'habitude de les voir, ce sont souvent des hommes, ces gens-là. Mais ici, le texte nous présente une femme courageuse, intelligente, dans ce rôle, comme nous préparer à accueillir le Christ lui-même, dans son rôle d'intermédiaire, de victime expiatoire, de pacificateur, de vérité. Dans Timothée, Paul nous dit « Car il y a un seul Dieu, un seul médiateur entre Dieu et les hommes. » C'est une femme, comme les autres hommes cités, qui est à l'écoute de Dieu et qui est devenue femme d'action à l'écoute de Dieu. Dieu ne nous fait-il pas ici un petit clin d'œil ? Comme le Christ l'accomplira pleinement, elle nous offre dans son partage de nourriture un peu l'image du pain et du vin de la réconciliation. La fin du récit est troublante, elle est réjouissante aussi. David entend par cette femme la voix de Dieu, il reprend ses esprits, il reconnaît sa déroute, son emportement, et c'est le récit d'une guérison qui répare l'amour-propre blessé de David, qui répare aussi en lui le sens du juste et de l'injuste. Une femme qui pense avec un « e » et qui pense avec un « a », qui pense les blessures. Ne connaissons-nous pas cette délivrance aussi quand nous nous approchons du Christ Sauveur? Il nous délivre du mal et il panse avec un A nos blessures les plus profondes. Nabal est puni. Il est puni comme le méchant, l'insensé qui ne reconnaît pas Dieu. Il est puni. C'est la condamnation du mal, comme le jugement final de Dieu, implacable aussi. Il est là, c'est écrit. Abigaël, de son côté, est maintenant, elle est libérée de l'emprise de son abruti de mari, je vais dire. Mais elle est veuve. Elle est veuve. Et c'est une situation dégradante à l'époque. Une veuve doit se recaser le plus vite possible pour ne pas être au banc de la société. Elle n'a pratiquement plus de statut social, cette veuve, dans l'Ancien Testament. En l'épousant, David reconnaît son intelligence et toutes ses qualités. Il reconnaît aussi l'importance de son intervention, sa place dans la société aussi. Mais est-ce que c'est seulement le happy end, on va dire, la fin, la belle fin d'une belle histoire, d'une belle romance? Je dirais que ici, c'est presque un nouveau départ qui sonnait. Avant la romance, c'est l'histoire d'une profonde conversion, d'une rédemption pour un homme, David, mais aussi pour une femme, Abigaël. Un homme et une femme meurtris par la vie qui tournent la page. Et David en route vers la royauté et Abigaël libérée de l'emprise d'un homme méchant et maintenant aux côtés d'un homme qui la respecte et la reconnaît dans sa beauté et dans son intelligence. C'est un nouveau départ pour tous les deux. Et quand nous nous tournons vers le Christ, est-ce que nous ne vivons pas non plus une restauration, un nouveau départ, une nouvelle naissance? Cette belle histoire de l'Ancien Testament nous annonce d'une manière différente la rédemption offerte en Christ parce que Dieu nous a aimés le premier. Et c'est le texte entier qui préfigure aussi une histoire d'amour encore plus belle, l'histoire de la résolution du conflit entre Dieu et nous par le Christ, le conflit majeur qui nous a séparés de l'amour de Dieu. Mais Dieu nous a aimés malgré tout en permettant dans la justice la véritable résolution du conflit, du problème, si vous voulez, pour revenir à nos maths et à notre physique. Là, ce n'est pas des maths et de la physique. La restauration, la relation avec notre Créateur est à nouveau possible en Christ. Et nous lui avons demandé pardon. Il nous ouvre la voie du salut par son sacrifice et sa résurrection. Nous sommes libérés au bénéfice de sa grâce. Il y a un petit là, le Christ au milieu, qui est le médiateur. Paul nous dit, en effet, Dieu était en Christ, il réconciliait le monde avec lui-même. En ne chargeant pas les hommes de leurs fautes, et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Alors, bienvenue à tous. Bienvenue, entrons dans cette nouvelle vie d'hommes et de femmes réconciliés. Alors c'est une belle histoire, je confirme. Et si vous voulez avoir la suite, je vous donne rendez-vous, continuez, ça sera au chapitre 30 de Samuel. Les aventures haletantes d'Abigaël et de David. Au chapitre 25, c'est le temps de la réconciliation et de la justice. Le Seigneur nous interpelle aujourd'hui, plus que jamais, pour être des ouvriers de paix, des ouvriers porteurs du message du Christ dans notre être transformé par sa grâce. Être au sens fort, exister, être au sens d'exister, être dans notre vie enfant de Dieu et porteur du salut en Jésus-Christ. C'est un beau défi que nous remettons à notre Seigneur et pour lequel nous comptons sans relâche sur le Saint-Esprit qui inspire et qui rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Dans le sermon sur la montagne, Jésus nous dit « Heureux, heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. » Seigneur, fais de nous des ouvriers de paix.